Nous allons reprendre les travaux donc avec le dernier atelier de l'après-midi et je laisse à la modératrice Emmanuelle Hiver donc diriger cet atelier.
Merci Marc, bonjour à toutes et à tous et puis d'abord bonjour à nos trois présentateurs de l'atelier. Donc pour pas perdre de temps, je vais donner directement la parole à David Bell qui va donc faire une présentation sur quelle histoire pour la didactique du FLE, puis après, il y aura la présentation de Véronique Laurence et puis la dernière présentation de l'atelier sera celle de Marie-Madeleine Bertucci. Mais pour l'instant, David, je te laisse la parole pour 20 minutes, c'est ça, hein? C'est à toi.
Merci Emmanuel. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est bon? Ça va? Parfait. Ok, très bien. Bon, alors, je commence sans plus attendre. Alors, désolé, je n'ai pas préparé de diaporama. Je vous montrerai quelques petites choses de temps en temps, mais c'est à la fois par manque de temps, mais aussi parce que ce n'est pas une recherche quand même très aboutie. C'est un peu plus qu'une causerie, mais moins qu'une recherche, on va dire. Voilà. Alors, je vais commencer cette communication par une déclaration d'amour publique. J'ai toujours aimé l'histoire. C'était même mes premières amours au lycée, à l'université, il y a longtemps. Il y a longtemps, j'ai fait des études d'histoire. J'ai été ensuite enseignant d'histoire dans le secondaire. Et puis, finalement, j'ai commencé une deuxième vie dans le français langue étrangère, l'enseignement puis la recherche. Donc, l'histoire semblait avoir été mise de côté. Et à ma grande surprise, elle est revenue. Petit à petit, de manière presque insidieuse. Alors, je me suis longtemps posé la question, pourquoi aimes-tu à ce point-là l'histoire? Eh bien, je crois que c'est parce que l'histoire, elle pose en fait beaucoup plus de questions qu'il n'y paraît. Et la première, c'est celle de l'identité. Car pour écrire une histoire, pour écrire notre histoire, il faut qu'il y ait un nous suffisamment fort, une envie, comme on dit, de se définir collectivement, de se reconnaître dans ce nous. Bon, c'est vrai que je pense, par exemple, tout simplement à l'histoire de France, où on voit qu'il y a tellement de débats, de conflits pour savoir qui doit être intégré dans cette histoire de France. Bon, mais je pense aussi à un autre terrain que je connais bien, qui est l'histoire du Canada, où en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une histoire commune selon qu'on soit au Québec ou au Canada. Donc, du coup, on a un petit peu laissé en suspens des instructions claires pour le cours d'histoire au secondaire au Québec, parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une histoire. Bon. Là, je prends l'exemple de l'histoire du pays, mais ça peut être aussi pour ce nous. L'histoire, par exemple, d'une institution, on peut très bien faire l'histoire d'une école primaire d'un village, et là, on imagine qu'il y aura un nous dans lequel on va se retrouver, tous les gens du village, parce que de génération en génération, on a fréquenté la même école. Alors, dans le cas qui nous intéresse, ce serait l'histoire de quoi? J'ai écrit dans mon titre « Quelle histoire pour la didactique du FLE ?» Alors, je reviendrai un petit peu plus tard sur le S entre parenthèses. Pour l'instant, gardons tout ça au singulier. J'ai écrit « Didactique du FLE », en fait, après avoir beaucoup hésité. Et d'ailleurs, cette hésitation, elle se traduit par l'usage du « pour hein, »,« Quelle histoire pour la didactique du FLE ?» car effectivement, la didactique du FLE, est-ce vraiment une discipline indépendante, par exemple, de des sciences de l'éducation ou de la didactique des langues étrangères? Mais là, on rentre dans la querelle des appellations, qui est loin d'être simplement une querelle des appellations. Est-ce qu'on va dire didactique des langues étrangères, didactique des langues étrangères et secondes, didactique des langues cultures, didactologie des langues, etc., etc. Et tout ça, c'est quand même aussi lié, puisque c'est de ça qu'on parle, à l'enseignement, apprentissage d'une langue étrangère, mais dans cet ordre, enseignement, apprentissage, dans l'ordre inverse, avec un tiret, sans tiret, c'est lié aussi à l'acquisition d'une langue étrangère, mais dans ce cas, on inclut beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là. Dans ce cas, ça, on va ratisser très large. Donc, en créant… la question quand même que je me pose, c'est en créant son objet d'étude et donc, d'une certaine manière, en fixant des limites, est-ce qu'on ne passe pas à côté de quelque chose? Si, par exemple, on fait l'histoire de la didactique du FLE, Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'essentialiser, d'isoler et de passer finalement à côté de quelque chose? Là, ça me fait penser à, quand je dis ça, à ma thèse, puisque je me suis intéressé à l'histoire de l'enseignement du français en Chine et surtout pourquoi l'enseignement du français se développe autant de manière exponentielle au niveau universitaire. Et donc, si je vous montre un graphique, on va voir que la courbe, à partir de 99-2000, du nombre d'ouvertures de spécialités de français chaque année, augmente fortement. À partir de 99-2000, on a une courbe comme ça qui est très, très forte. Bon, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que si je vous montre juste ce graphique, on va être impressionné par cet objet d'étude qui est donc le développement de l'enseignement du français au niveau universitaire en Chine. Bon, mais si je vous mets le développement des autres langues étrangères, le développement des autres spécialités universitaires, parce qu'on assiste à ce moment-là à une massification de l'enseignement supérieur chinois, eh bien, ma courbe du français va se perdre au milieu d'autres courbes qui sont tout aussi ascendantes. Donc, vous voyez qu'en ayant une étude qui paraît très contextualisée, en fait, par la manière dont je définis mon objet d'étude, je la décontextualise. Donc, c'est la question un petit peu que je me pose ici, c'est est-ce qu'on ne risque pas de faire la même chose si on fait une histoire de la didactique du flux et donc d'oublier beaucoup d'éléments. Et puis, cette question du « nous » se pose-t-elle, est-ce qu'elle se pose dans et pour d'autres langues? C'est vrai qu'on l'a dit un petit peu ce matin, mais enfin, pour les anglophones et puis pour les sinophones aussi, et bien d'autres langues, il n'y a pas ce mot « didactique » exactement. Donc, pourquoi, en fait, pourquoi il n'y a pas ce mot et pourquoi il est si important dans le domaine français que ça soit même une discipline. Et puis, on ne parle quand même pas tout à fait de la même chose si on parle de l'histoire de la didactique du FLE ou de l'histoire de l'enseignement du FLE ou de l'histoire de l'apprentissage du FLE. Alors, bon, l'histoire de la didactique du FLE, donc de la discipline, a été faite largement par plusieurs auteurs et ce matin, on a eu en conférence d'ouverture, un rappel brillant par Daniel Coste. On a vu que cette histoire de la didactique du flux, elle est quand même déjà largement documentée. Mais bon, sans avoir réglé cette question du nous, je vais passer à ma question suivante, celle du comment. Hein, comment on pourrait faire cette histoire. Alors, ici, je me suis pas mal inspiré d'un article alors, je voulais vous le montrer, mais il n'apparaît pas à mon écran. Tant pis. D'un article de François-Jacquet-Francillon de 2009 qui s'est intéressé à l'histoire de l'enseignement et de l'éducation et de l'enseignement et qui, en fait, le titre de son article est « L'histoire de l'éducation et de l'enseignement dans et hors des sciences de l'éducation ». Et il observe en fait qu'il y a deux histoires de l'éducation et de l'enseignement, une dans et une en dehors des sciences de l'éducation. Alors, la première qui est dans, c'est celle qu'il appelle une histoire mémoire. Il parle de, je cite, de mémoire collective, d'histoire quasi identitaire. Et donc là, les objets de prédilection sont les doctrines éducatives d'un côté, les institutions d'enseignement de l'autre. Eh bien, on retrouve, je crois, cette histoire quasi patrimoniale dans justement les différentes histoires qui ont été écrites de la didactique du FLE. On a des lieux emblématiques, le Crédif, le Belk, on a des moments clés, des périodes charnières, un niveau seuil, on a des personnages emblématiques. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est que Daniel Coste les a rappelés ce matin et je crois qu'il a de mémoire justement cité l'expression d'histoire quasi patrimoniale ou quelque chose d'assez proche. Donc ça, c'est cette histoire dans les sciences de l'éducation et donc ça pourrait s'appliquer à la didactique du FLE. Et cette histoire-là, c'est aussi beaucoup une histoire des idées. Si on pense par exemple à l'ouvrage de Claude Germain, que je vous mets bien connu, l'ouvrage emblématique de Claude Germain, donc de 1993, Évolution de l'enseignement des langues, 5000 ans d'histoire, c'est vrai que on peut se demander si c'est vraiment une évolution de l'enseignement des langues depuis 5000 ans ou si c'est une histoire des discours, notamment savants, sur l'enseignement des langues depuis 5000 ans. Alors, si je continue avec cet article de Jacquet Francillon de 2009, l'histoire en dehors des sciences de l'éducation, c'est ce qu'il appelle l'histoire socioculturelle. Et l'histoire socioculturelle, donc, je cite, elle connaît peu de héros, comme elle objective de préférence des populations et des masses, elle convoque des anonymes et des sans-grades dont elle cherche à décrire les représentations et les comportements collectifs. Donc, c'est un peu une histoire ici, une histoire d'en bas ou une histoire par le bas. Ça peut être aussi une histoire du quotidien, une histoire des vécus. Et là, je pense à un ouvrage que j'avais lu il y a quelques années, de Agnès Lamme, sur donc, l'évolution de l'enseignement des langues étrangères en Chine. Et en fait, si vous voyez bien le sous-titre, « Policy and Experience », et effectivement, à chaque fois, elle va, pour chaque période et pour chaque langue, donc elle commence par l'anglais et puis ensuite les autres langues, mais elle parle aussi du putonghua, la langue nationale, elle va à la fois parler de la politique mise en place, de la politique linguistique, mais il va aussi y avoir une partie entrevue de témoins de l'époque et donc l'expérience qui a été vécue par ces différents témoins à ce moment-là. Alors, je fais le lien avec, ça me permet de faire le lien, pardon, avec des courants, des écoles historiques qui n'ont pas, qui n'ont a priori rien à voir avec la didactique des langues, mais justement, arrêtons-nous un instant pour y réfléchir. Alors, le premier courant auquel je pense, et ça fait le lien avec ce que je disais précédemment, c'est donc toutes les histoires populaires qui ont été écrites. Alors, je crois que ce courant a été lancé par l'historien américain Howard Zinn quand il avait donc décidé d'écrire une histoire populaire des États-Unis. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas en fait réécrit l'histoire, il n'a pas modifié, comment dire, le récit historique, mais il a pris, enfin, le récit historique. Donc, il n'a pas, c'est plutôt qu'il a décidé de prendre le point de vue des gens, de ceux qui étaient absents de cette histoire-là. Faire l'histoire des oubliés. Oubliés, pourquoi? Parce qu'ils sont dominés. Donc c'est pour ça que c'est une histoire d'en bas ou par en bas. Il a décidé à ce moment-là de revoir toute cette histoire, mais de l'écrire autrement. Alors après, en France, on a eu l'histoire populaire aussi par Gérard Noiriel, et puis ici, une histoire populaire de la France de Zancarini Fournel que je vous montre, voilà, que j'ai avec moi ici. Bon. Alors, c'est clair que tout de même ici, on a une dimension, pardon, je renverse mon verre d'eau, on a une dimension politique, puisque l'idée c'est de faire l'histoire des dominés, des oubliés. Est-ce que c'est une grille de lecture pertinente pour nous? Ma réponse a priori était plutôt non, mais plus j'y pense, plus j'y doute quand même, parce que c'est vrai que si on s'intéresse à l'enseignement du français dans le monde, on va quand même trouver des rapports de domination, on va trouver de la colonisation, du néocolonialisme, on a parlé ce matin de diffusion du français, et puis on va aussi parler d'une hiérarchie entre les langues par rapport au prestige qu'on prête à ces langues-là. Donc, probablement que cette dimension pourrait quand même être intéressante. Mais en tout cas, une histoire par en bas, là, ça me fait penser à, vous savez, quand on oppose francophonie d'en haut et francophonie d'en bas, donc une francophonie d'en haut, des discours très performatifs, institutionnels, versus une francophonie vécue, réelle, qui s'intéresse de presque de type ethnographique. Là, on s'intéresse à ce qui se passe, ce qui se perçoit, ce qui se vit dans la rue, dans le quotidien, dans le travail, à la maison. Bon, c'est ce même type d'analyse-là qu'on pourrait faire où il y a un enseignement et un apprentissage d'une langue, bon, le français, langue étrangère en l'occurrence. Je continue à tirer le fil. Cette histoire populaire, ça nous rappelle aussi que l'histoire, c'est aussi et souvent et même toujours peut-être une histoire de perception. Et là, ça me fait penser à d'autres travaux, notamment aux histoires de femmes, donc je vous montre l'ouvrage de Michel Perrot, Mon histoire des femmes. Donc là, c'est intéressant parce que elle explique justement dans l'introduction que elle, qui était déjà une historienne avec une belle carrière déjà lorsqu'elle a commencé à s'intéresser aux femmes, à l'histoire des femmes, eh bien, elle explique qu'elle n'y avait pas pensé. En fait, ça ne lui était pas venu à l'esprit de faire une histoire des femmes. Et là, c'est un petit peu la même le même principe que l'histoire populaire, c'est-à-dire qu'on va revoir ce qu'on avait écrit et en fait en prenant un point de vue particulier. Et là, ça me faisait penser au roman de Amin Mahalouf, Les croisades vues par les Arabes, donc ce moment historique qu'on enseigne en Occident toujours du côté des Européens, bien là, dans ce roman historique, c'est vu du côté des Arabes. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, cette perception différente. Donc là, on pourrait imaginer dans notre histoire de la didactique du FLE, une approche historique par acteur, par catégorie d'acteurs, par partie prenante. Alors, si j'utilise partie prenante, on ajoute un élément d'enjeu, probablement. Et justement, dans ces enjeux, il y a probablement des enjeux de mémoire, j'y reviendrai. Alors, c'est vrai que cette histoire part en bas. Est-ce que l'histoire du côté de l'apprenant a été écrite? Est-ce que l'histoire du côté de l'apprenant d'un certain pays a été écrite? Bon, ma connaissance livresque est trop insuffisante pour répondre. Mais enfin, en tout cas, je soumets la question. Alors, je continue dans mes pérégrinations les histoires mondiales. Donc, je vous montre l'ouvrage bien connu maintenant, Histoire mondiale de la France. Bon, alors, si on regarde ce courant historique-là, que serait une histoire mondiale de l'enseignement du français, une histoire ou une histoire mondiale de l'enseignement du français langue étrangère et seconde, ou juste français langue étrangère, ou une histoire mondiale de la didactique du français? Alors là, ça serait quand même plus large, ça inclurait aussi français langue maternelle, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on peut essayer d'envisager une telle perspective. Bon, si on reprend ce que dit Patrick Boucheron dans l'introduction, il dit on a une ambition politique puisqu'il s'agit de mobiliser une conception pluraliste de l'histoire contre l'étrécissement identitaire qui domine aujourd'hui le débat public. Donc, cette idée, effectivement, dans une histoire mondiale de, alors je ne sais pas quoi, didactique du français, du FLE, cette idée de proposer une conception pluraliste, je la trouve assez séduisante. Il parle un peu plus loin dans son introduction des enjeux aussi, des historiens qui n'osent plus aller sur la scène publique parce que c'est trop simplificateur et on l'a bien vu ces derniers mois malheureusement, alors que c'est plus compliqué que cela, je cite Patrick Boucheron, mais c'est vrai que bon, la crispation identitaire, la dimension politique, est-ce qu'elle serait complètement utilisable dans notre cadre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que nous aussi, on souffre d'une tendance à la simplification du discours, à la technicisation de la recherche, à l'ultra-spécialisation. Les chercheurs, maintenant, ils deviennent spécialisés d'un tout petit d'un sous-domaine. Avec aussi le développement de neurosciences, de la neuroéducation, il y a quand même une tendance à simplifier considérablement les choses dans le discours tenu moins publiquement. Donc, c'est sûr qu'une histoire mondiale de… Bon, encore une fois, je ne sais pas trop quoi, ça pourrait être intéressant. L'entrée par les dates aussi, oui, donc, puisque vous le savez, cette histoire mondiale, elle est date par date. Donc, je recite Patrick Boucheron, l'entrée par les dates s'imposait comme la manière la plus efficace pour déjouer les continuités illusoires du récit traditionnel. Alors, pourquoi pas, cette histoire mondiale de la didactique du FLE ou de je ne sais quoi pourrait être faite par date. Alors, on pourrait faire un petit jeu aujourd'hui. Quelle date nous pourrions mettre dans cette histoire mondiale, à supposer que ce soit pertinent de faire une telle histoire mondiale. Mais c'est vrai que les continuités illusoires du récit traditionnel, c'est vrai que quand on lit l'histoire de l'enseignement des langues ou de la didactique des langues étrangères, on a comme cette succession, presque par enchantement, des différentes méthodes, comme si tout s'enchaînait comme ça de manière merveilleuse. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement cette idée de continuité illusoire du récit traditionnel? Et puis, dernier point sur cette histoire mondiale, donc c'est vrai que la mondialité de la langue française ou de l'enseignement du français, eh bien, si on reprend l'esprit de ce courant historique, c'est quand même de décentrer, justement, on parle de la France, mais sans tout voir depuis la France. Et donc ça pourrait être, je crois, intéressant pour une histoire mondiale, encore une fois, didactique du FLE, didactique des langues. Bon. Alors, très rapidement, avant de passer à ma conclusion, Il y a un autre courant que je trouve effectivement très intéressant, c'est l'histoire du temps présent, mais du temps presque immédiat, là, hein. Donc, l'histoire en train de se faire. Et donc, ce qui veut dire que là, il faudrait penser à rassembler les archives de demain. Là, j'ai pas bien encore réfléchi à ça, mais il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à creuser. Je termine sur une, non pas un courant, mais une notion, c'est la notion de chrononyme. Alors là, je crois que j'arrive à vous montrer la photo de cet ouvrage qui est paru, je crois, qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, dirigé par Dominique Khalifa, sur les noms d'époque. Et effectivement, le mot qu'il utilise beaucoup, c'est donc les chrononymes. Et c'est une réflexion très riche sur la manière dont on nomme, on renomme et finalement on défend. On déforme le temps. Et alors, c'est vrai que dans cet ouvrage très riche, là, je pensais par exemple aux 30 Glorieuses, c'est vrai que c'est une expression qu'on apprend dans le secondaire, justement, alors qu'elles n'ont pas été glorieuses pour tout le monde, quoi. Donc, vous voyez, cette idée de déformer le temps. Alors, que ces chrononymes aient été donnés sur le moment ou après, qu'ils aient été donnés par une personne identifiée ou non, c'est sûr qu'ils sont utilisés pour qualifier une période et donc lui donner un sens, donc les 30 Glorieuses, comme je l'indiquais à l'instant. Alors, je me suis posé cette question, donc dans cette histoire de l'enseignement ou de la didactique du feu, je ne sais pas, est-ce que ça pourrait être intéressant? C'est sûr que quand on lit souvent ces histoires, on s'aperçoit que, bah, par exemple, les choses bougent à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, ce qui est vrai c'est d'ailleurs. Mais donc avant, on a tendance à dire que c'est un enseignement traditionnel des langues. Bon. Donc du coup, le mot traditionnel est mis comme une étiquette. Alors, est-ce que ce serait un chrononyme? Je ne sais pas, ça serait peut-être un peu exagéré. Mais en tout cas, voilà, ce terme vient qualifier une période. Bon. Ou bien on a parlé communicatif, de la domination du communicatif qui serait donc la marque encore de la période d'aujourd'hui. Bon. Alors, c'est vrai que si je reviens à l'idée traditionnelle, bon, il y a quand même eu, je ne sais pas, au 15e, au 16e, au 17e siècle, des marchands itinérants qui se promenaient partout en Europe, qui avaient appris plusieurs langues. Alors, est-ce qu'ils les ont apprises de manière traditionnelle? Ou est-ce que ça s'est fait de manière autre, voyez. Bon, donc je ne sais pas. C'est une réflexion qui est vraiment comme ça, une question que je lance un petit peu comme ça. Alors en conclusion, évidemment avec tout ce que je viens de dire là, c'est quand même surtout de la modestie que je veux mettre en avant parce que il y a tellement de personnes. Des personnes, des grands chercheurs qui ont travaillé sur ces questions-là, et certaines sont présentes ici, donc du coup, je ne voudrais pas peut-être beaucoup des idées que j'ai proposées sont pas très pertinentes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de perspective de recherche, j'ai terminé, Emmanuel, c'est ma conclusion. En termes de perspective de recherche, c'est sûr que il y a des. Je crois que ça serait intéressant de pouvoir lire ou relire certains travaux à la lumière de ce que j'ai dit pour voir si ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Bon, peut-être dans la discussion, on pourra évoquer certains de ces travaux. Mais un point sur lequel je voudrais insister, c'est que je crois quand même que nous sommes tous des héritiers, que nous le voulions ou non, que nous en soyons conscients ou non. À partir du moment où on commence à faire de la recherche, à enseigner dans ce domaine-là, y réfléchir, on s'inscrit dans cette histoire. Et on hérite de cadres de pensée. Et le courant historique que je garde pour la fin, pour ma conclusion, c'est évidemment la socio-histoire, chère à Gérard Noiriel, puisqu'il y a cette idée d'insister sur l'historicité de ce qu'on fait, de notre discipline, de notre champ, sur le lien passé-présent. Alors, j'avais commencé par une touche personnelle, je vais terminer par une touche personnelle. C'est vrai que dans mes travaux, je me nourris des sociologues, des historiens, parfois des économistes, enfin en tout cas certains, des philosophes, bref, des travaux en sciences humaines et sociales, parce que je me sens trop à l'étroit dans la didactique du FLE ou des langues, mais pourtant, je n'ai pas l'impression d'être un apatride. J'ai toujours cette impression d'être en didactique du FLE ou des langues, même si je vis dans et pour l'interdisciplinarité ou même la transdisciplinarité, sans trop souffrir du syndrome d'imposture, ou d'avoir l'impression de faire une intrusion. Mais j'ai quand même un malaise parce que dans le fait de redéfinir sans arrêt les frontières, mais ça, c'est peut-être tout simplement de la pression institutionnelle qui oblige aujourd'hui à se disciplinariser de manière absolue. Donc finalement, j'aurais peut-être été plus heureux au XVIe siècle. Voilà, merci.